Ouellette, en direct.
Avec JC et Patricia.
Attention, please.
Radio X.
Pierre Poilievre avait un gros défi. D'abord, il y a des gens qui se demandaient pourquoi il fait ça, pourquoi il va aux États-Unis, pourquoi c'est au Canada, il est politicien, on comprend pas trop. Mais il a décidé d'y aller et il devait se carrer. Tu sais, depuis un certain temps, on le voit, Mark Carney le vent dans les voiles, les conservateurs défroquent, ça change de bord à la Chambre. Il doit se carrer, il devait le faire et il l'a fait, puis je le dis d'entrée de jeu, en partie avec l'aide de notre chroniqueuse. Tu l'as écouté, Pat, je pense, là, l'entretien entre Catherine Loubier et Pierre Poilievre à New York. Extraordinaire. Très bonne jasette, Catherine, très fort. Puis d'ailleurs, elle est là. Fait que j'y ai dit hors d'onde, j'y ai dit que je le dirais en onde parce que je pense que ça mérite la mention. Catherine, bonjour.
Bonjour.
C'était très bon. Et tu étais très bonne. Et Pierre Poilievre était très bon aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On dirait qu'il y a une genre de petite métamorphose.
Bien, je pense qu'il était investi d'une mission, puis une mission qui ressemble beaucoup à celle que devrait faire un premier ministre élu s'il était élu. Et cette mission-là, c'est défendre les intérêts du Canada, puis porter le message qu'on est plus fort ensemble aux Américains. Et il l'a très bien fait. C'était une tournée efficace, c'était la bonne chose à faire. Je lui donne un immense crédit pour s'être rendu au Michigan, au Texas, à New York, chez Joe Rogan, puis avant ça en Europe, avec des stops dans plusieurs pays. Bravo. Cette voix-là qu'il a, qui est forte, qui est accueillie, où on lui ouvre les portes et on l'écoute, extrêmement important en ce moment dans notre situation avec les Américains.
Tu sais, tu as été conseillère principale, justement, d'un PM. Donc, tu sais de quoi tu parles. Est-ce que Pierre Poilievre... Moi, ce que j'ai noté, en fait, c'est qu'il a enlevé son sourire inutile. Il a enlevé l'espèce de... En campagne, on dirait qu'il a essayé de dégager quelque chose qu'il n'est pas. Tu sais, c'est pas pour lui ce sourire dans le vide devant rien, pour aucune raison, parce qu'il faut avoir l'air sympathique. Tu sais, j'ai pas vu ça. En tout cas, je l'ai pas vu avec toi, je l'ai pas vu avec Joe Rogan. J'ai senti qu'on dirait qu'il s'est donné le droit d'être un peu plus lui-même. Penses-tu que c'est du conseil de conseiller, ça, ou ça vient de lui, ou as-tu remarqué la même chose?
Non, je pense que ça vient de lui. Puis en campagne électorale, bien sûr, il faut sourire, tu sais, il faut être attrayant pour les femmes.
Pas si ça a l'air fauné, tu sais.
Non, ben, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a eu l'air fauné 100% tout le long de la campagne, là. Il y a peut-être des événements, des journées, des sujets où ça paraissait être un peu plus forcé, mais l'heure est grave en ce moment, puis il a pris vraiment le temps d'aller là-bas. Il y a même, écoute, un des segments de notre entretien, c'est quand je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'entente du premier ministre Carney avec la Chine. Et il a répondu, je ne vais pas dénigrer mon premier ministre à l'étranger. Il y a une place pour faire ça, c'est à la Chambre des communes. Donc voilà, ça tranche. Le ton est différent.
Et il a fait la même chose avec Rogan.
Oui, il a fait la même chose avec Rogan et je vais vous dire, je donne beaucoup de crédit parce que il a attaqué de front plusieurs mythes qui existent aux États-Unis, très graves au sujet du Canada puis des Canadiens. Et il a fait un excellent travail d'aller à la rencontre des Américains parce qu'à la fin de la journée, c'est eux qui élisent le président et qui convainquent le président qui est élu de ses politiques économiques et des politiques qui nous touchent, nous, au Canada, là, puis au Québec.
Entre autres, puis un exemple de ce que tu dis, il s'est attaqué à des mythes, entre autres, les sables bitumineux. Tu sais, où Joe Rogan dit, moi, j'ai vu les images, c'est horrible, c'est
absolument
un saccage extraordinaire, puis vous êtes en train de détruire la nature. Et lui, de répondre, c'est une très mauvaise information. Mm. Tu sais, c'est pas ça qui se passe. On a l'industrie gazière la plus propre au monde, puis quand on part, on voit plus rien, tout est réparé, tout est... Tu sais, donc, Joe, de le dire, c'est une chose, de le dire à Joe Rogan, là, t'as une chance de changer des perceptions, là.
Absolument. Puis il l'a dit et il l'a même invité à venir voir parce qu'on le sait, là, c'est pas parfait les sables bitumineux, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une campagne de salissage énorme, très financée à haut niveau, qui s'est passé. Et c'est ça qu'il essaie de réparer. Mais tu sais, il y avait un message qui était simple, mais tellement important. T'sais, il a dit, le Canada, les États-Unis sont liés par leur géographie, leur histoire, leur économie. Et on est plus fort ensemble quand on se tient ensemble devant des pays rivaux que quand on se chicane entre nous. T'sais, ça paraît simple, mais il faut le dire aux Américains. Il a défendu, comme tu le dis, l'énergie canadienne. Il a souligné qu'on a des intérêts communs en sécurité. Évidemment, son message de le commerce sans tarif qu'il avait porté en Europe est revenu aussi aux États-Unis puis à New York. Et donc, je pense qu'il a vraiment scandé. On était, nous, à la Foreign Policy Association, qui est un
Oui.
groupe que je connais bien du temps que j'étais à New York. Ils l'ont invité à parler à un groupe de plus d'une centaine de personnes. Et on avait là-dedans des Canadiens qui sont établis à New York, des gens de Wall Street, des gens d'entreprises qui fleurissent à New York. Il y avait des diplomates, il y avait un peu de tout. Et on était au Harvard Club, qui est un endroit qui se porte très bien à ce genre d'événement-là, où le ministre Girard, d'ailleurs, fait son traditionnel discours après le budget auprès des financiers de Wall Street à chaque année. Et il y a, tu sais, je parlais des mythes tantôt. Une chose qu'on entend beaucoup aux États-Unis qui est restée, que M. Trump avait dit, c'est ah, les Canadiens ont volé 200 milliards aux Américains. La balance du déficit commercial est en faveur du Canada. Alors, non seulement il a parlé comment le développement pétrolier n'est pas ce que les gens peuvent penser au niveau de l'environnement, mais aussi qu'on est la troisième réserve mondiale de pétrole
Ben
dans le
oui.
monde. Et la raison pourquoi il y a un déficit, c'est parce qu'on exporte en grande partie le pétrole qu'ils consomment, puis en plus à des prix qui sont très avantageux pour eux. Et il a même évoqué la richesse des nations d'Adam Smith quand il a ouvert notre discussion, bon,
C'est vrai.
justement sur le libre-échange. Et il a rappelé aussi qu'on a un partenariat militaire économique profond, mais tu sais, juste de dire que les Canadiens ont combattu aux côtés des Américains lors de deux guerres mondiales, tu sais, ça
Ouais,
paraît simple, mais
rappeler,
on
ouais,
peut.
mais rappeler des petites choses qui ont de l'écho, c'est une bonne affaire, là.
Est-ce que
C'est une bonne affaire.
Pierre Poilievre, là, parce que là, tu sais, on parle de ce qu'il a livré à New York, aussi il y a eu le podcast de Joe Rogan, etc. Est-ce que Pierre Poilievre, c'est un nerd? Puis c'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que je trouve que. Non, mais en fait, n'importe quel sujet, il n'est pas capable de juste donner des opinions. Il y a des faits,
Ça, t'as
des
tout à fait
factuels.
raison.
On dirait
Oui,
qu'il connaît tout.
il y a une mémoire encyclopédique. Oui, il y a une mémoire encyclopédique, premièrement. Et on voit bien qu'il s'est posé la question sur tous les angles de ce qu'il faut faire au Canada. Et il est capable de parler effectivement de n'importe quel sujet avec des références historiques, en expliquant, pardon, clairement. Qu'est-ce que c'est les principes à la base de sa vision économique? Qu'est-ce que c'est la philosophie en arrière derrière sa vision du commerce, en référant, tu sais, tantôt à Adam Smith. Il a cité aussi Kennedy également. Il a dit, l'histoire nous a rendus des amis, l'économie nous a rendus partenaires et la nécessité nous a rendus des alliés. Le président Kennedy avait dit ça, ajoutant aussi que ceux que la nature a ainsi réunis, que nul homme ne les sépare. Donc, on passe du philosophique à des questions très pratiques que je lui ai posées, entre autres, qu'est-ce que c'est ton elevator pitch pour Donald Trump? Comment on fait pour négocier avec lui? Il a parlé, il faut avoir du leverage, il faut avoir des leviers. Et c'est pour ça que, et c'est très brillant, il propose une réserve stratégique de minéraux critiques qu'on a en abondance. Et ce que ça fait, c'est que ça évite que ce soit juste les règles du marché. Ça fait en sorte qu'on va enfin extraire et vendre à un moment donné, mais stocker en attendant ces richesses naturelles-là. Donc, il a rappelé, garde bien simple, que la première destination des exportations pour les Américains, c'est quel pays? C'est
C'est
le
nous autres,
Canada.
ah oui, et vice-versa.
Ben oui.
Ah oui.
Et donc, tu sais, c'est super important. Puis c'était très différent de ce que le PM Carney nous dit. Parce qu'il a dit, les véritables menaces, là, sont pas entre nous deux. Hein? Les véritables menaces, ils
Ben
nous
le
viennent.
PM Carney mise là-dessus, mise sur
Ouais,
la
mais tu
peur de
sais, il a
Trump, tu sais.
dit. Oui, non, mais il a pas juste dit ça. Il a dit, les menaces nous viennent de Pékin et de Moscou et de Téhéran et ses proxys qui le finance. Donc, en d'autres mots, les États-Unis ne sont pas notre ennemi.
Exact.
Et ça, c'est un message très sage parce qu'il faut voir à long terme. Il ne faut pas confondre pays et président pour certains Canadiens, en tout cas. Oui. Et c'est très différent de ce qu'on entend de Mark Carney qui veut rompre tout lien avec les États-Unis, qui nous parle d'un nouvel ordre mondial, notamment avec la Chine.
Oui, en fait, qui nous fait l'illusion que c'est possible de transférer 90 % de nos exportations vers l'outre-mer sans qu'il y ait de conséquences économiques. Moi, j'ai de la misère à croire ça. Et dans la liste que tu as nommée, on pourrait aussi rappeler aux Américains qu'on a sorti leur diplomate du trouble pas mal aussi en Iran quand le chat est tombé. Mais même si dans le film, ils le disent pas trop, là, mais c'est quand même nous autres aussi qui les a dépatouillés dans cette situation-là.
Et c'est un exploit dont on sert souvent quand on est diplomate, on rappelle ça. Puis si on a le temps, juste une petite anecdote, j'y ai parlé des investissements directs étrangers au Canada. Je dis, regarde, c'est difficile, hein, parce que notre pays, c'est pas attractif, là.
Ouais.
Et là, il m'a donné des exemples. Il m'a parlé de Hardesty, qui est un petit village en Alberta qui est 600 personnes. Il dit que ça leur a pris une semaine pour donner un permis pour la manutention de 100 milliards de dollars de pétrole.
Wow! Une semaine?
Oui!
Au Canada?
Et il dit, alors on est capable de faire des choses. Et il a donné l'exemple du projet de LNG de 40 milliards dans la nation Haisla, qui a mis complètement fin à la pauvreté dans cette communauté-là et qui a remplacé le charbon qui est plus polluant, là. Et donc, il dit, ça prouve que les dirigeants locaux peuvent débloquer rapidement des projets puis qu'on peut réussir à surmonter la bureaucratie.
Ouais.
J'ai trouvé ça intéressant. Puis le fait est que tout le monde parlait de cet exemple-là après, dans la salle. Ah, tout le monde en parlait.
Ou même quand il a parlé de l'économie de la Suisse, tu sais, il a amené des affaires que moi, j'ai qui m'ont déstabilisé parce que je m'attendais pas à ça. T'sais, quand il dit refaire l'économie canadienne, on devrait faire comme la Suisse, arrêter d'imprimer de l'argent, arrêter de faire perdre la valeur à notre monnaie qui est hors de contrôle. Il a scoré. Moi, en tout cas, t'sais, puis j'avais pas besoin d'être scoré, mais je pense que pour quelqu'un qui pense que ce gars-là est un agressif, méchant, quirulent, je pense que quiconque a écouté ce discours-là, et sur ton plateau, et sur celui de Joe Rogan et autres, il a vraiment eu une bonne semaine. Il était dans un bon état d'esprit. Ça sortait
très
bien,
clair,
c'était clair. Ouais. Ah oui, c'était très bon.
Moi, je voudrais ajouter ceci parce que je repense bien gros à ce podcast-là que j'ai écouté au grand complet. Là, puis j'ai trouvé que c'était un sapristi de bon coup, alors que la plupart des gens ont dit juste avant qu'il était trop tard. Moi, je veux dire quelque chose, parce que des fois, je suis en maudit après le Canada, puis je me reconnais plus. Je veux dire qu'il m'a donné de l'espoir, puis on a vraiment besoin. Puis je sais pas s'il va être capable d'avoir été capable de reconquérir, parce qu'il y a aussi ça, il y en a qui sont comme je me reconnais plus, puis j'ai juste envie de m'en aller de ce pays-là. Mais moi, c'est ça qui m'a donné, en l'écoutant, je me disais, c'est rationnel.
Absolument.
C'est pas nécessairement enflammé. On l'a connu enflammé, mais
c'est intelligent.
Oui, exactement.
Ça parle,
c'est vrai que ça donne de l'espoir, parce que tu vois qu'il y a il y a un moyen d'y arriver. Tu sais, il propose des choses, il s'appuie sur des faits, sur d'autres pays comme la Suisse, effectivement. Et on voit de la lumière au bout du tunnel, puis on se dit, on est capable. Le Canada, c'est pas ce qui est en train de nous arriver, c'est pas pour toujours. Et voici comment on peut en sortir. Et puis, il est convaincant, informé. Oui, t'as raison, ça donne de l'espoir.
Oui, puis je trouve aussi que ça présente, parce que souvent on dit Parti conservateur anti-avortement, puis tu sais, il vantait que tout ce qu'il veut, c'est que le Canada soit the freest, tu sais, le plus libre.
Ouais, le pays le plus libre au monde.
Tu sais, le plus libre au monde, ça veut dire que tu rentres pas dans les chambres à coucher, là. Okay? On s'entend que
non,
c'est
pas
ça. C'est ça.
Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec lui.
Pour quelqu'un à qui on a présenté Pierre Poilievre comme étant le diable sur deux pattes, ben là, t'as vu, ça t'a possiblement décontenancé parce que c'est pas ça pantoute que on a vu comme image. On a vu quelqu'un qui était posé, modéré, puis qui veut juste que tu sois libre. Je me disais, on n'est pas dans l'extrême droite pantoute, là.
Absolument pas. Ça, c'est vieux mythes-là là, du Parti conservateur, j'espère qu'il est en train de les démolir. Je pense que oui.
Ben, en tout cas, il a fait un bon bout de chemin pour ça, clairement. En terminant, il nous reste peut-être 3-4 minutes, mais je voulais, puis tu voulais me parler de l'Iran, puis avec raison, là, disons que c'est ce qui retient l'attention de la planète depuis quelques semaines. On parlait d'une semaine, on est rendu à près d'un mois, le 25e jour, je pense, de guerre avec l'Iran. Et tu me dis, tantôt, on jasait pendant la pause, tu me dis, c'est le temps de laisser la place à la diplomatie, à la... Est-ce qu'on est vraiment rendu là? Parce que, écoute, je sais pas, là, j'ai peut-être manqué un petit bout aujourd'hui, là, mais moi, de ce que j'ai compris, Trump nous dit qu'il est en pleine négociation. L'Iran n'a pas l'air convaincu qu'ils sont en négociation.
Ben oui, ben là, ils ont changé d'idée dernièrement. Mais je pense qu'on est rendu là parce que, bon, il y a eu énormément d'actions. Ah oui. Oui, il y a eu l'élimination du leader, il y a eu l'élimination de plusieurs installations militaires, d'actifs stratégiques. On sait que tout est enseveli, hein, l'équipement stratégique est dans des souterrains et celle nucléaire aussi. Mais puis en même temps, ben, pas trop de vies humaines quand même qui ont été. Il y en a, puis chaque vie est importante, là, mais on s'entend. Donc, et puis ça a déstabilisé le monde, hein, les marchés, les chaînes d'approvisionnement en pétrole et autres fertilisants. Et là, on voit que, oups, là, M. Trump essaie, lors du deal, de faire des moves. Donc, il dit, si vous ne faites pas... si vous n'ouvrez pas le détroit, je vais détruire vos installations de pétrole pour votre population. Et ça, c'est grave. Alors, il voulait faire bouger les Iraniens. Ce qu'on sait dans les dernières minutes, c'est que les Iraniens disent qu'ils sont ouverts à une discussion, mais ils ont des conditions. Et ce qu'on voit aussi dans les dernières heures, les derniers jours, c'est... Là, on s'organise. Là, c'est l'occasion pour des puissances moyennes au Moyen-Orient de prendre un rôle pour stabiliser la région. L'Égypte est impliquée. Il devrait peut-être avoir une réunion en personne en Turquie avec l'ambassadeur Witkoff et Jared Kushner, qui est un envoyé spécial. Et peut-être que J.D. Vance se rendra en Turquie. L'Arabie saoudite veut trouver une rampe de sortie. Ouais. Même chose pour l'Égypte. Et là, qui est l'interlocuteur des Iraniens? Le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, qui est un gars de 64 ans, qui est très influent, semble se dessiner comme un des interlocuteurs qui voudrait... être une courroie pour pouvoir trouver une rampe de sortie. Alors, il y a beaucoup d'intermédiaires, puis il y a des discussions diplomatiques, et on va voir ce qui va ressortir de là, mais on est en plein dans le jeu diplomatique en ce moment.
Et Catherine, merci. Je vais classer ta chronique d'aujourd'hui sous le thème de l'espoir.
Oui, j'aime ça.
Merci beaucoup d'être avec nous tous les mardis, et bonne semaine.
Merci à vous aussi.
Salut, bye. Catherine Loubier, à qui on aime bien jaser une fois par semaine, ancienne déléguée générale du Québec à New York, conseillère principale à l'époque avec Stephen Harper. Voilà. Puis si vous ne l'avez pas écouté, et Joe Rogan et l'intervention de Catherine Loubier à New York où elle animait en fait une soirée devant des gens et elle questionnait, c'était comme si elle était l'intervieweuse de Poilievre, ben, je vous invite à trouver ça puis à écouter ça. C'est très bon. 13h21, on fait une pause, on revient.
Willett. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.